Alors.
France Culture.
Oui, je vous envoie l'ascenseur, 4e étage.
Vous nous envoyez l'ascenseur, merci beaucoup.
Le Book Club.
Allez, rentrez les ventres et les micros. T'y arrives ou pas?
On va le savoir très vite.
Dans la bibliothèque d'Annie Lebrun.
Bonjour.
Bonjour. Rentrez si vous n'avez pas peur du chaos.
Nous n'avons pas peur du chaos.
Marie Richeux.
Je ne sais pas si vous vous souvenez pas.
Née en 1942, Annie Lebrun était poète, essayiste, spécialiste de l'œuvre du Marquis de Sade et de celle de Victor Hugo, entre autres, penseuse de la beauté et de la liberté. Au début de l'été 2024, elle avait accepté de nous recevoir dans son appartement, débordant littéralement de livres. Nous prévoyons de diffuser ce portrait de bibliothèque à la rentrée et elle mourut quelques semaines après cet entretien. C'est donc le dernier entretien qu'elle accorda. Nous sommes d'autant plus ému de le partager avec vous qu'il était déjà, bien avant la nouvelle de sa disparition, un moment de transmission très fort au cours duquel l'évocation du désir comme force motrice de la vie fut centrale. Dans un livre, l'air peut passer. Il peut agrandir le paysage dans lequel on est pris, exactement comme le font les rencontres amoureuses puissantes. Cet aller-retour entre la passion des êtres et celle que l'on peut vivre avec les mots, nous le faisons beaucoup en conversant avec Annie Lebrun. Autour de nous, les livres sont une présence protectrice, bâtie à partir de la première bibliothèque construite avec son mari, le poète croate Radovan Ivzic. Dans les caisses à fruits, puis dans celles de vin, se tiennent sur deux épaisseurs des ouvrages dans lesquels elle se repère sans mal. Rares sont les personnes qui parlent de la lecture comme ayant un tel impact sur l'existence.
Par où alors?
Non.
Là, hein?
Ok.
Ça bouge.
Nous rencontrons Annie Lebrun quand paraît son livre « Qui vive ?», considération inactuelle sur l'actualité du surréalisme. C'est un texte de 1991 dans lequel les auteurs sont loués pour le risque pris à éprouver leur pensée, à la faire coïncider avec leur vie et leur corps. Nous lui avons demandé, comme à chacun de nos invités, de choisir 5 textes. Il raconte sans détour la conscience poétique d'Annie Lebrun, son appétit de gaieté et de lyrisme, son désir de savoir, toujours accroché au désir tout court.
On fait une petite description de cette maison de livres dans laquelle vous nous accueillez? Non, vous voulez pas?
Oui, non, je sais pas, oui.
Ah si, quand même. Je peux vous dire que de toutes les bibliothèques que nous avons, tous les endroits avec des livres que nous avons visités,
oui.
C'est celui où il y en a le plus. Depuis quand est-ce que vous vivez dans les livres comme ça?
Presque, pas vraiment depuis toujours, mais j'ai toujours eu beaucoup de livres.
Qu'est-ce que ça fait de vivre dans un endroit où il y en a autant?
On se sent protégé, moi ça me protège. Ça me protège du froid, ça me protège de la chaleur, c'est vrai. Et ça me protège aussi de pas mal d'autres choses. Et quand il y en a beaucoup, je pense que c'est important, c'est à cause de la diversité qu'il représente. Mmh. Ouais. Et à chaque fois que je me suis séparée des livres, j'aime pas ça. Cette bibliothèque-là, moi, j'avais une bibliothèque un peu normale, si je puis dire, au départ. Et quand j'ai rencontré Radovan Ivzic, avec qui j'ai vécu longtemps, lui avait déjà une véritable bibliothèque des choses qui lui importaient le plus. D'abord parce qu'il était d'originaire de Croatie, donc il avait quitté la Yougoslavie et le régime titiste en 54-56. Il habite Paris. Et entre-temps, il avait déjà perdu deux bibliothèques, étant donné les circonstances politiques et historiques. Donc, pour lui, ses livres était quelque chose d'essentiel. Mm. Et c'est à partir de ce noyau des livres qu'il a pu à la fois retrouver ou qui ont compté beaucoup pour lui que s'est constituée cette bibliothèque. L'origine de ça, c'est ce mur que lui avait fait. Enfin, qu'il a fait, c'est-à-dire que comme il n'y avait pas d'argent, c'est pas des rayons de bibliothèque, mais c'est des caisses d'oranges. Mm. Et parce que autrefois les caisses d'oranges étaient assez solides. Hein. À la fin des marchés, il allait et puis ramassait les, les caisses. Il a construit cette bibliothèque comme ça.
Qui prend la totalité du mur, du sol jusqu'au plafond.
Oui.
Et c'est une bibliothèque qui est demeurée intacte. C'est exactement comme ça qu'elle est depuis des années.
Oui, oui, oui. Ben, comme une bibliothèque existe et vivante quand les choses bougent. Donc, à la fois, bon, c'est des livres, moi aussi, que je consulte. Et puis, il s'en est rajouté beaucoup d'autres aussi.
On dit un mur, mais en réalité, il y a des caisses d'oranges derrière vous aussi, oui. Annie Lebrun. Et...
il y en a partout.
Ouais, si
je... Et après, il y avait les caisses, c'était... parce que les caisses d'oranges, c'est profond. Donc, la plupart de ces caisses-là, c'est double rayonnage. Hein. C'est-à-dire, il y a la même chose derrière pour tenir. C'est pas pour tenir, mais c'est ce qui va avec. Mais après, il y a eu les caisses du marchand de vin Nicolas, qui étaient beaucoup plus commodes parce qu'elles étaient moins profondes. Donc on n'avait pas besoin de les lester, je veux dire. Et en plus, aussi, il y a eu aussi les caisses des restaurants chinois, qui étaient très bien parce que pour les alcools qu'on importait, l'alcool de riz, et c'est très bien pour les livres d'art. Qui était plus grand, plus lourd. Mmh. Voilà. En gros, le principe architectural de la chose.
C'est une bibliothèque que vous connaissez bien. Vous en connaissez la répartition. Vous savez où trouver ce que vous cherchez.
Oui, pour ce centre-là.
Pour ce mur-là.
Oui, oui, oui. Après, on a un peu... Bon, par exemple, derrière, là, c'est plutôt tout ce qui est la psychanalyse. Là-bas, sous la glace, c'est plutôt tout ce qui est érotique. Vous voyez, sous la grande glace. Et alors l'ennui, c'est que les livres se multipliant, à un moment, les places qui leur sont préparées,
attribuées,
ça déborde.
Il y avait des livres dans la maison où vous avez grandi ?
Oui, 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 oui. Oui, il y en avait, et puis on pouvait, quand on avait envie de livres, on pouvait en avoir, quoi, c'est ça, on pouvait, oui.
Et quand vous avez commencé à plus lire dans l'adolescence, vous êtes dirigé vers quoi ?
Un peu, enfin, d'abord la poésie, ça m'intéressait un peu. Ça, je regardais ça, j'avais une anthologie de poésie. Ça m'intriguait, quoi. Et ça me plaisait plus que pas mal de choses. Et puis, au fur et à mesure, j'ai commencé à lire. Et puis après, ça s'est plus arrêté. Ça s'est accéléré un peu avec la philosophie. Et puis, bon... après, c'était parti, quoi.
Est-ce que vous y cherchez des choses dans les livres ?
Des mondes que je connais pas, d'un côté. Et puis aussi, toujours des réponses aux questions qui me hantent, quoi, depuis le début. Voilà.
Et c'est parce que ça répond pas que vous continuez ou au contraire c'est parce que ça répond un petit peu à chaque fois ?
C'est un peu comme au poker, à tous les coups on joue quoi. Mmh. Donc c'est ça qui est bien aussi.
Ouvrir un bouquin c'est ça quoi, c'est,
ouais.
C'est jouer.
Ouais. Ouais.
C'est tenter quelque chose.
C'est tenter quelque ouais. chose, non, c'est pas seulement, c'est essayer de voir où ça mène, où ça va quoi.
Ouais.
Et qu'est-ce que ça va ouvrir, et qu'est-ce que ça va ouvrir.
Et ça ouvre souvent vous trouvez ?
Il y a des livres qui ouvrent. Actuellement, il n'y en a pas beaucoup qui ouvrent. Ouais. Mmh. Mais il y en a qui ont effectivement. C'est à vie. Hein. Pour moi, la rencontre avec un certain texte, certains livres, c'est aussi important qu'avec la rencontre avec certains êtres. Mmh. Ça change tout. Ça change tout. C'est comme des amis. Tout d'un coup, il y a une sorte d'amitié formidable qui est là. Qui, voilà, on vous reçoit dans un monde et vous êtes libre d'y aller.
Souvent, on entend cette phrase-là que lire un livre, ça peut être aussi puissant que la rencontre avec
ah
un
oui,
être.
Oui, oui.
Mais si vous pouviez ou si vous deviez, Annie Lebrun, essayer de dire plus précisément ce que vous dites quand vous dites ça pour des personnes qui n'ont pas vécu cette expérience, si vous deviez essayer de la décrire, de dire vraiment, mais qu'est-ce que ça fait en fait ? Qu'est-ce que ça fait de vraiment rencontrer un livre qui, comme vous dites, vous accueille dans son monde ? Pourquoi c'est si important ? Parce qu'au final, on voit à peu près ce que c'est qu'une rencontre amicale, amoureuse, sexuelle, avec un paysage. On voit, on arrive à mettre des mots là-dessus. Mais je trouve que c'est plus difficile de décrire avec précision ce qui se passe quand il y a vraiment un point de rencontre avec un texte.
C'est quand même du même ordre. Parce que, par exemple, quand j'ai regardé les textes que j'ai choisis...
Comme étant les cinq livres étapes, voilà. Ouais.
Je me suis rendu compte que, dans le fond, tout avait affaire avec, d'une certaine façon, avec la question érotique, avec la question amoureuse.
Dans leur thème ou dans leur énergie?
Les deux, ouais. C'est ça, c'est les deux. Les thèmes, bon, oui, c'est évident, plus ou moins évident, mais c'est l'énergie, et je pense que c'est une énergie érotique. Mm. Et c'est ça le paradoxe des livres, c'est qu'ils vous entraînent de la même façon dans une forme d'altérité, vers une altérité de la même façon que une rencontre amoureuse, passionnelle. Vous êtes emporté. Et c'est ça que, pour moi, qui est très significatif. C'est pour ça que je continuerai toujours de lire. Voilà, c'est ça. Après la suspension du mouvement surréaliste, on avait continué avec Radovanif Citoyen, un ami Goldfein, Pushmore, etc. On avait continué de se voir, et à un moment, on s'était dit qu'on va peut-être définir les objets qui nous importent. Donc, on a fait ça. Et je me souviens que moi, j'avais choisi le livre. Et j'ai donné comme définition, et je m'en suis souvenue ces temps-ci, éventail de l'esprit. Mmh. Et c'est ça. Dans le fond, pour moi, c'est ça. Parce que c'est un objet extraordinaire. Vous l'avez devant vous, c'est petit, donc vous pouvez le trimballer partout. En même temps aussi, c'est aussi Radovanif qui avait donné comme réponse pour le livre, avait dit « La dernière forêt qui marche ». C'est ça aussi, parce que vous avez la forêt avec le livre, tous les papiers, tout ce qui est dedans. Et puis quelque chose, il y a... Le vent passe ou ne passe pas dans les livres. Et quand il passe, alors là, tout se transforme. Mais c'est l'objet aussi. Vous pouvez jouer, vous pouvez aussi le refermer, vous pouvez le laisser, vous pouvez le laisser longtemps, vous pouvez revenir. Il y a une sorte de liberté. Aussi, c'est dans la distance. Mmh. C'est ça aussi, je pense que c'est la distance qu'il y a entre ce monde qui s'ouvre à vous, mais qui ne s'impose pas forcément. Mmh. Vous êtes libre aussi. C'est aussi cette sorte de liberté que le livre donne. Et je pense que c'est ça qui fascine aussi.
D'ailleurs, quand vous parlez d'éventail, la première chose, avant même de penser au fait qu'en effet, ça peut avoir la forme de l'éventail, mais j'ai vraiment pensé à l'air, en fait.
C'est l'air.
Au fait
d'avoir
un espèce d'ajout d'air, de respirer plus fort, plus grand, quoi.
Ouais. C'est une arrivée d'air et c'est aussi un appel.
Un appel, ouais. Voilà, c'est ça. C'est vraiment les deux.
Oui, oui. Mm. Et c'est ça. Et c'est ça. Et bon, et dans le fond, c'est... Analogiquement, c'est ce qui se passe quand il y a des vraies rencontres avec les êtres.
Mm. C'est-à-dire plus d'air, quoi, d'un coup. Ou un autre air.
Un autre air, ouais. Par exemple, quand vous êtes dans des endroits ou comme ça, où la mer, ou comme, ben, y a des étés formidables. Alors, je ne lis pas beaucoup dans ces cas-là. Mais aussi, la question, c'est de savoir quel livre va tenir devant ça.
Mm.
Alors, il y en a qui tiennent, il y en a qui ne tiennent pas.
Ah oui, c'est-à-dire devant quoi? Devant la lumière, devant l'océan?
C'est la lumière, c'est le soleil.
Ouais.
C'est
une sacrée concurrence, ça.
Oui, c'est des sacrés concurrents. Mais ce qu'il y a de formidable, c'est qu'il y a des livres qui tiennent, et comment?
Vous avez souvenir de ça? De livres qui ont tenu pendant des étés à la concurrence, bah, de la... En fait, aussi d'un autre grand érotisme qui serait le paysage, la lumière.
Oui, oui. Je ne sais pas d'un souvenir précis, mais il y en a. Oui. J'en ai pas mal quand même.
Du coup, c'est double bénef. Il y a
voilà,
les deux, quoi.
Exactement. C'est ça. Oui. Et c'est étonnant.
Oui, c'est étonnant.
C'est formidable.
Ouais.
Parce que aussi, quelquefois, le paysage n'en devient le paysage.
Transformé.
Et là, autour n'en devient que plus. S'ouvre complètement, quoi.
C'est une analogie qu'on peut faire d'ailleurs entre la lecture et un rapport au paysage. Parce qu'on a parlé de la.
Ah, complètement.
Ouais, on a parlé de l'analogie avec une rencontre.
Complètement.
Okay.
Complètement.
C'est
et c'est aussi un peu la même chose que quand il y a un livre comme ça qui vous marque, le monde devient plus grand.
Mm.
De la même façon que quand il y a quelque chose de très fort, passionnel, le monde s'agrandit. Et vous aussi, d'ailleurs, par la même occasion. Donc, je pense aussi que le fait, là, ça ramène à ce qu'on disait au départ, le fait que c'est aussi important que la rencontre d'un être, le point commun, c'est aussi le paysage. Le paysage change à chaque fois. Et c'est ça qui fait que on a toujours envie que ça continue, quoi. Mais le point commun, c'est le paysage. Et c'est que le paysage change, et avec les livres et avec les êtres.
I be your mirror, reflect what you are, in case you don't know. I be the wind, the rain and the sunset, the light on your door, to show that you're home. When you think the night has in your mind, that inside you're twisted and unkind. Let me stand to show that you are blind. Please put down your hands, 'cause I see you. Don't know the beauty you are, but if you don't, let me be your eyes, a hand to your darkness, so you won't be afraid. When you think the night has in your mind, that inside you're twisted and unkind, let me stand to show that you are blind. Please put down your hand, I see you. I be your mirror.
France Culture. Le Book Club. Dans la bibliothèque d'Annie Lebrun. Marie Richeux.
On vous a demandé, comme à chacun de nos invités, de choisir 5 livres étapes, Annie Lebrun. Comment vous vous y êtes pris?
Bon, j'ai essayé de me souvenir un peu qu'est-ce qui s'est passé, quoi. J'aurais pu en mettre d'autres, bien sûr, mais bon, il fallait choisir. Mais c'est assez important. C'est quand même des, je dirais pas des ancrages, parce que ça a été à l'origine de mes plus grands voyages, si je puis dire. Mais c'est quand même des points de départ, et j'y reviens sans le côté désagréable des retours, des souvenirs, des choses comme ça. J'y reviens comme à quelque chose de vivant. Et qui, à chaque fois que j'y reviens, j'y découvre quelque chose d'autre.
Et y revenir, pour vous, ça veut dire vraiment relire. C'est pas uniquement s'en souvenir ou attraper des choses que
ça. Non, je relis et tout d'un coup, et ça, c'est bon, ça, c'est ce qui arrive avec les grands textes. Il y a toujours quelque chose que vous aviez pas vu. Et ça, c'est extraordinaire.
Bon, alors, on y va. Votre premier choix s'est porté sur Alfred Jarry.
Ah non. Est-ce que je...
Oh, dans l'ordre que vous voulez.
Dans l'ordre, ouais, bien sûr. Je pense qu'il y a un ordre, oui.
Alors,
le premier, c'est Genet.
C'est Genet.
Oui, oui.
Le condamné à mort, qui est un poème écrit en 1942.
Oui.
Est-ce que vous voulez d'abord nous dire pourquoi vous l'avez choisi?
Je l'ai choisi parce que je ne l'ai pas lu comme poème, je l'ai d'abord entendu chanter par Hélène Martin. J'étais très jeune. Et là, avec l'interprétation qu'elle en a faite, tout d'un coup, j'ai compris que, à travers les mots, passait un trouble qui, à ce moment-là, me hantait.
Très jeune, vous diriez quoi ?
C'était 17 ans, par là. 16-17 ans. Oui. Et là, j'ai vu que, à travers les mots, il y avait quelque chose qui passait et qui était... Dans le fond, j'ai découvert ce qu'on pourrait dire le lyrisme. Comme c'est le développement d'une protestation existentielle, si je peux dire. Et dans le même temps, c'est l'affirmation de la plus grande singularité de ce qui n'existera qu'une seule fois. Et là, Et il y a quelque chose de très fort dans ce poème-là, puisque on voit bien que tout le merveilleux de la rencontre amoureuse est là et concentré au moment où ça va disparaître. Et que néanmoins, à travers cette affirmation lyrique, la chose va continuer, elle va continuer à vivre.
Mais continue à vivre parce que d'un coup, elle est écrite et qu'elle est imprimée et qu'elle est transmissible.
Ouais, parce qu'elle a été dite, parce qu'on lui a donné cette forme, on lui a donné cette forme singulière qui est, dans le fond, aussi c'est l'expression fondamentale de la singularité, parce que c'est une foi. Hein, et je reviens, je m'étais demandé pourquoi les contes de fées nous plaisent tellement et pourquoi ça continue d'agir.
Il était une fois.
Oui, c'est Il était une fois.
Celle-là.
Il était une fois et il y aura une fois, c'est ça. Et que, étant donné cette foi, et qu'il y aura une foi, et que c'est encore possible, ça brave, en quelque sorte, c'est ce qui brave toutes les fatalités.
Mais ça veut dire aussi que, tout de suite, Annie Lebrun, vous dites que le texte, il brave le tragique de ce « il était une fois ». Parce qu'à la fois, ce « il était une fois
oui, »,
il
oui,
dit le très grand singulier, mais il dit aussi que c'est une fois et plus jamais pareil.
Oui,
alors que le texte...
Oui.
Il ouvre la possibilité de la répétition de cette foi.
Oui, mais occulter,
oui, oui.
sans occulter le caractère tragique. Et là, plus que jamais, avec le texte de
Genet.
Texte de Genet. Oui, oui.
Vous nous le lisez ?
Donc ça s'appelle « Le condamné à mort ». Sur mon cou, sans armure et sans haine, mon cou, que ma main plus légère et grave qu'une veuve, effleure sous mon col, sans que ton cœur s'émeuve, laisse tes dents poser leur sourire de loup. Ô viens, mon beau soleil, ô viens, ma nuit d'Espagne, arrive dans mes yeux qui seront morts demain, arrive, ouvre ma porte, apporte-moi ta main, mène-moi loin d'ici, battre notre campagne. Le ciel peut s'éveiller, les étoiles fleurir, ni les fleurs soupirer, et des prés l'herbe noire, accueillir la rosée, où le matin va boire, le clocher peut sonner, moi seul, je vais mourir. Où vient mon ciel de rose, où ma corbeille blonde, visite dans sa nuit ton condamné à mort, arrache-toi la chair, tue, escalade, mort, mais viens, pose ta joue contre ma tête ronde. Nous n'avions pas fini de nous parler d'amour. Nous n'avions pas fini de fumer nos gitanes. On peut se demander pourquoi les cours condamnent un assassin si beau qu'il fait pâlir le jour. Amour, viens sur ma bouche. Amour, ouvre tes portes. Traverse les couloirs. Descends. Marche léger. Vole dans l'escalier. Plus souple qu'un berger. Plus soutenu par l'air qu'un vol de feuilles mortes. Oh, traverse les murs, s'il le faut, marche au bord des toits, des océans, couvre-toi de lumière, use de la menace, use de la prière, mais viens, ô ma frégate, une heure avant ma mort. Hein, c'est... Le texte est extraordinaire.
C'est extraordinaire.
Et bon, c'est la preuve que c'est quand même un des plus grands poètes du XXe siècle, hein, Genet, ça. Comme le théâtre aussi, mais... Il y a deux choses. C'est peut-être la chose la plus simple. Nous n'avions pas fini de nous parler d'amour.
Ah, ouais.
Je trouve ça extraordinaire. Ouais. Extraordinaire. Et aussi, nous n'avions pas fini de fumer...
De fumer nos gitanes.
Et les deux ensemble. Parce que bon, si on pouvait... nous parler d'amour, bon, très bien. Mais déjà, nous n'avions pas fini, c'est ça aussi. C'est de ça dont il est question. Quand il s'agit de cette énergie passionnelle, on n'a jamais fini. C'est ça. Et là, et que, en plus, ce soit justement accolé à « nous n'avions pas fini de fumer nos gitanes », tout d'un coup, ça ramène... Le risque de grandiloquence est conjuré, justement.
Ouais.
Par ces gitanes, et c'est ce qui donne aussi la grandeur de cette poésie-là. Quoi.
Votre deuxième choix, Annie Lebrun, cette fois, c'est porté sur Alfred Jarry.
Oui, c'est Jarry.
Avec un extrait du Surmal, publié en 1902.
Oui.
C'est le dernier roman de l'auteur publié de son vivant. C'est un texte que vous connaissez beaucoup, vous l'avez post-facé. Pourquoi est-ce que vous l'avez choisi ?
Je l'ai choisi parce que le livre lui-même est la plus profonde réflexion sur l'amour qui ait jamais été faite à mes yeux. Et ça se présente sous la forme la plus simple du monde, si je puis dire. C'est un roman moderne, précise Jarry, et qui commence par la phrase « L'amour est un acte sans importance puisqu'on peut le faire indéfiniment ». Donc tout est dit dès le départ. Et ce livre est une charge contre toutes les sentimentalités, les bêtises, l'idéalisme autour de l'amour, tout ce qui a pu être dit. Et à la fois, Jarry montre l'impasse que constitue l'idéalisme amoureux, mais de l'autre côté aussi, l'impasse qui est l'illusion du record.
Et alors, est-ce qu'il y a une solution ? C'est-à-dire que si le nombre est une impasse, si l'idéalisme est une impasse, il propose quelque chose ?
Lui, oui, c'est-à-dire qu'il commence à voir que quelque chose peut s'inventer justement dans l'affrontement de deux altérités. Mais en prenant compte du fait aussi que le corps existe, que le corps est une machine, qu'on met au défi quelqu'un de pouvoir égaler le record de Théophraste, et il va se trouver qu'une fois que ce record a été égalé, quelque chose d'autre commence entre les deux, entre le surmâle et la jeune personne qui s'est présentée comme candidate pour participer à cette aventure.
On lit un extrait ? Vous lisez un extrait ?
L'horloge annonça minuit et Hélène, puisque c'est le nom de la jeune personne, c'est fini ? Alors, à vous mon maître, ils tombèrent l'un vers l'autre. Leurs dents sonnèrent et le creux de leur poitrine, ils étaient si absolument de la même taille, fit ventouse et retentit. Ils commencèrent de s'aimer, et ce fut comme le départ d'une expédition lointaine, d'un grand voyage de noces qui ne parcourait point des villes, mais tout l'amour. Quand ils s'unirent d'abord, Hélène eut peine à ne pas crier, et son visage se contracta. Pour étouffer sa souffrance aiguë, il lui fallait quelque chose à mordre, et ce fut la lèvre de l'Indien. Marqueuil avait eu raison de dire que pour certains hommes, toutes les femmes sont vierges. Et Hélène en souffrit, la preuve, mais elle ne cria point, quoique blessée. Ils se repoussèrent au moment précis où d'autres s'enlacent plus étroitement, car tous les deux se souciaient d'eux seuls et ne voulaient point préparer d'autre vie. Quand on est jeune, à quoi bon ? Ce sont des précautions que l'on prend ou qu'on ne cesse de prendre au bout de sa vieillesse après son testament sur son lit de mort. Le second baiser, mieux savouré, fut comme la relecture d'un livre aimé. Au bout de plusieurs seulement, Hélène put démêler quelques plaisirs au fond des yeux étincelants et froids de l'Indien. Elle crut comprendre qu'il était heureux de ce qu'elle était heureuse jusqu'à souffrir. Sadique, dit-elle. Marqueuil éclata d'un rire franc. Il n'était pas de ceux qui battent les femmes. Quelque chose en lui leur était bien trop cruel pour qu'il eût besoin d'y ajouter. Ils continuèrent et chacun de leurs baisers fut une escale dans un pays différent où ils découvraient quelque chose et toujours une chose meilleure. Hélène paraissait décidée à être un peu plus souvent heureuse que son amant et atteindre avant lui le but indiqué par Théophraste. L'Indien approfondissait en elle des sources de plaisir angoissées qu'aucun amant n'avait effleurées. À 10, elle bondit avec légèreté hors du lit et revint tenant une mignonne boîte d'écailles prise au cabinet de sa toilette. À 10, vous avez dit, mon maître, il faut panser ses blessures avec certains baumes. Oui. L'ombre grinçait, murmura Marqueuil. Il rectifia doucement, à 11 plus tard. Tout de suite, dit Hélène. Et les forces humaines furent franchies. Comme d'un wagon, on regarde s'évanouir les paysages familiers d'une banlieue. Hélène se révéla courtisane experte. mais c'était si naturel. L'Indien donnait si bien la sensation de quelque idole taillée dans des matériaux inconnus et purs, dont chaque partie que l'on caressait était la plus pure. La fin de la nuit et toute la matinée, les amants n'eurent point d'heure de repos ni de repas. Ils sommeillaient ou veillaient, ils n'auraient pu le dire. Ils grignotaient des gâteaux et des mets froids et boire dans une même coupe n'était qu'une des mille variantes de leur baiser. À midi, l'Indien avait presque atteint et Hélène avait dépassé depuis longtemps le chiffre de Théophraste. Hélène se plaignit un peu. « J'ai si chaud, dit-elle en marchant par la salle, les mains sur ses seins tendus. Je ne suis pas assez nue. Est-ce que je ne pourrais pas ôter cette chose sur ma figure ?» Les yeux du docteur épiaient de la vitre. « Quand l'ôterons-nous » répéta Hélène. « Quand le cerne de tes yeux débordera le masque. Qu'il déborde vite, » gémit Hélène. Il la prit dans ses bras, où elle resta pliée comme un foulard froissé en boule. Il la recoucha comme une enfant, l'étendit, lui tira la peau d'ours sur les pieds, en racontant avec une pédanterie comique pour la faire rire. Aristote dit en ses problèmes, « Pourquoi cela n'est-il pas à l'amour d'avoir les pieds froids ?» Et voilà.
C'est marrant parce qu'en vous écoutant, je me dis que... Bon, certes, c'est un extrait, et puis moi, je ne l'ai pas lu, ce texte, mais qu'il est, complexe. Ça me semble être un texte complexe.
Très complexe.
Un peu torve, sous oui. des apparences...
Toutes les apparences, mais lisez ce texte, lisez ce livre, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce que Jarry l'écrit en 1902. L'année d'avant, il a écrit Messaline, donc l'héroïne du désir inassouvible. Et un an après, pratiquement l'opposé, ce roman moderne, puisque c'est un roman... Il écrit en 1902, mais l'histoire se passe en 1920. Et ça change du tout au tout. Et c'est la question, dans la mesure où Messaline, dans le fond, va tourner en rond et va mourir de cet inassouvissement, il pose la question de est-ce qu'il y a quelque chose qui peut aller plus loin que ça ? Et c'est la question amoureuse.
Est-ce que je tombe juste si c'est le texte de Charles Cros ?
Non.
Non, bah, je tombe pas J'aurais juste.
Il y a
Sade.
C'est Sade.
Et vous avez choisi un extrait de l'histoire de Juliette, Annie ouais. Lebrun.
Oui.
Bon, c'est un auteur qui est très important dans votre parcours. Est-ce que vous voulez nous dire quelques mots sur l'histoire de Juliette avant d'en lire un extrait ?
Préciser pour le Marquis de Sade, c'est quelqu'un qui a dit que ce n'est pas ma façon de penser qui a fait mon malheur, mais celle des autres. Donc, ce qui veut dire qu'il a passé 27 ans en prison, dans 11 prisons différentes, pour avoir continué.
Pas abdiqué, quoi.
Il n'a pas abdiqué et il a affirmé sa singularité parce que. Ce que moi, ce qui m'a fasciné chez Sade, c'est que au moment extraordinaire du XVIIIe siècle, où les philosophes, se libérant du joug de la religion, commencent à essayer de penser l'homme et de penser même l'individu en fonction des autres hommes, lui renverse la machine, enfin, renverse la perspective plutôt. En essayant de penser et de penser le monde à partir, non pas de ce qui le relie aux autres hommes, mais à partir de ce qui en différencie absolument et qui est sa singularité sexuelle, bon après qu'on a appelé le sadisme. Et là, il y a une sorte de courage de la pensée qui m'a complètement impressionnée, sinon bouleversée.
Puisqu'on parle d'étapes dans le parcours, est-ce que vous vous souvenez à quel moment vous le découvrez ?
Oui, très bien, parce que à un moment je me suis intéressée au roman noir de la fin du XVIIIe siècle. pour une raison très simple, c'est que, ayant lu le manifeste du surréalisme, le premier manifeste de Breton, Breton fait une charge épouvantable contre le roman en disant qu'il n'y a aucun roman, ça n'a aucun intérêt, etc. Sauf qu'il sauve du lot les romans noirs apparus à la fin du XVIIIe siècle. Et il parle en particulier du moine de Lewis, 1795, où il y a une héroïne qui est assez fascinante. Et il dit, ce personnage est une tentation à l'état pur. Et si un personnage n'est pas une tentation, qu'est-il ? Alors, lisant ça très jeune, moi, j'ai voulu savoir qu'est-ce que c'était ce livre où les personnages étaient des tentations. Et je me suis jetée dans les romans noirs. Et donc, là, je me suis rendu compte que c'était pas commode d'accès, mais je me suis rendu compte que toute l'époque de la fin du XVIIIe siècle lit ces romans qui se passent dans les forêts, dans les châteaux sombres, etc., etc., où s'est mis en place un décor qui va être celui du romantisme en pleine époque des Lumières. Et là, je me suis dit, qu'est-ce de quoi il s'agit ? Donc, j'ai commencé à réfléchir sur cette question-là. Donc, c'est devenu un livre qui s'appelle « Les châteaux de la subversion ». Et chemin faisant, je me suis rendu compte qu'il y avait quelqu'un qui avait tout de suite prêté une grande attention à ces livres-là, puisque c'était le Marquis de Sade, puisqu'il en parle même dans son idée sur son livre qui s'appelle, son texte qui s'appelle L'idée sur les romans, et que lui a immédiatement investi ce décor du château, et son premier écrit, c'est le château des 120 journées de Sodome. Voilà.
On lit un extrait, vous lisez un extrait de l'histoire de Juliette ?
Oui. Donc, ça se passe quand Juliette, qui est un personnage féminin, avec tous les handicaps que la condition féminine pouvait présenter au XVIIIe siècle, qui va conquérir sa liberté en sabrant tous les stéréotypes féminins. Et, dans le fond, l'histoire de Juliette, c'est cette conquête incroyable. Dans le même élan, elle va rencontrer Ferdinand, le roi de Naples, avec qui elle aime beaucoup dialoguer, elle aime beaucoup éprouver aussi les personnes qu'elle rencontre. Donc voilà, elle va aborder la question politique de la liberté avec Ferdinand, le roi de Naples. Il faudrait peut-être que j'aille rechercher le livre pour... Bon, je vais le chercher.
Ouais, super. Allez-y.
Ne bougez pas, je... Et que ça se trouve, hein.
C'est clair, franchement, je me disais comment ça va faire.
Qu'est-ce qui va se passer ?
J'avoue.
Je vais peut-être quand même allumer la lumière parce que je ne vois pas beaucoup là. Non, c'est pas ça. Oui, c'est ça. Oui. Pardon. Donc, c'est la page 1025. Voilà, je pense que là c'est très important parce que quand elle dit la frivolité n'est point mon vice et il lui demande si les Françaises s'occupent de pompons et tout ça, donc je trouve ça bien. Donc hop, on enlève ça, elle lui explique qu'il se trompe complètement, et on enlève ça et ça. Donc on peut y aller ?
Allez,
y aller.
Bon. On y va.
Donc c'est quand Juliette s'adresse au roi Ferdinand. « Laisse Naples vivre en République. Ce peuple, je l'ai bien étudié, est aussi mauvais esclave qu'il deviendrait bon citoyen. Rends-lui donc l'énergie qu'enchaîne ton pouvoir et tu auras produit deux biens à la fois, celui de faire trouver en Europe un tyran de moins et celui d'y faire admirer un peuple de plus. » Là, peut-être qu'on peut carrément couper... Hein, et on va passer à Ferdinand qui m'avait écouté.
Ok, très bien.
parce que ça fait... Ah non, parce que non. On continue, je m'excuse. Faut continuer. Bon. Ferdinand, qui m'avait écouté avec attention, me demanda, dès que je finis, si toutes les Françaises raisonnaient comme moi sur la politique. Non, lui dis-je. La plus grande partie analyse mieux des pompons que des royaumes. Elles pleurent quand on les opprime. Elles sont insolentes dès que les fers tombent. Pour moi, la frivolité n'est point mon vice, mais je n'en dis pas autant du libertinage. J'y tiens excessivement, mais le plaisir de foutre ne m'aveugle pas au point de ne pouvoir discuter des intérêts des différents peuples de la terre. Le flambeau des passions alluma la foi dans les âmes fortes, celui de Minerve et celui de Vénus. À la lueur de celui-ci, je fous comme ta belle-sœur, il s'agit de Marie-Antoinette de France, au rayon du premier, je pense et parle comme Hobbes et comme Montesquieu. Est-ce donc, selon toi, quelque chose de si difficile à mener qu'un empire ? Assurer si bien le bonheur du peuple qu'il ne puisse plus vous envier le vôtre, travailler ensuite à ce dernier avec d'autant moins de retenue que l'homme cesse d'observer et d'être jaloux quand il est heureux, il me semble que voilà tout le secret, et il y a bien longtemps que je l'aurais mis en pratique si j'avais, comme toi, le pouvoir et la folie de régir un peuple. À quoi Ferdinand répond « Ma foi, je n'entends pas grand-chose à tout cela, me répondit ce gros Benet. Je fous, je mange des macaronis sans cuisinier, je bâtis des maisons sans architecte, je recueille des médailles sans antiquaire, je joue au billard comme un laquais, je fais faire l'exercice à mes cadets comme un sergent, mais je ne parle ni politique, ni religion, ni mœurs, ni gouvernement, parce que je ne connais rien à tout cela. Et le royaume va comme il peut. T'imagines-tu donc qu'il faille être si savant pour être roi ? Tu me prouves que non, répondis-je, mais tout cela sans me convaincre qu'il ne soit pas très nécessaire d'avoir de la raison et de la philosophie pour conduire les hommes et que, privé de l'un et de l'autre, on ne doit faire que des sottises qui doivent engager bien vite les sujets d'un prince tel que toi à secouer ton joug imbécile et ils le feront tomber, sois-en bien sûr, si tu ne prends pas tous les moyens possibles pour les en empêcher. J'ai des canons, des forteresses, et à quoi sert tout cela ? Mon peuple, s'il se lasse de toi, il ne te servira plus. On tournera les canons contre ton château, on s'emparera de tes forteresses et l'on te traînera peut-être dans la boue. Vous m'effrayez, madame. Mais c'est extraordinaire parce que, bon, c'est une illustration de... Si Nietzsche parle du gai savoir, souvent d'ailleurs... C'est pas tellement drôle qu'on lui guette. Tandis que là, la gaieté théorique est extraordinaire. Mmh. Hein. Bon, et c'est ce qui fait un des charmes incroyables de Sade, parce que à la vigueur de la pensée et la force subversive de la pensée est décuplée, si on peut dire, par la constante gaieté, le constant humour, et que Juliette incarne de façon incroyable. Mmh. Et avec cette histoire-là, je fous comme ta belle-sœur, etc. Mais je peux discuter de...
Comme Hobbes
et Montesquieu. Voilà. Et en ce sens-là, pour moi, c'est quand même l'invention d'une liberté féminine sans aucun équivalent. Hein. Et on voit aussi bien, donc aussi, et c'est aussi moi ce qui me fascine chez Sade, à quel point la façon d'être et la façon de penser sont indissociables chez lui. Mmh. Il n'y a pas d'idée sans corps pour lui, mais en même temps qu'il n'y a pas de corps sans idée. Mmh. C'est-à-dire le corps commence aussi à être autre chose s'il y a des idées derrière. Mmh. Voilà, c'est ça.
Make love. accepting words.
Jeune fille du Caboulot, de quel pays es-tu venue pour étaler ta gorge nue aux yeux du public idiot ? Jeune fille du Caboulot, il te déplaisait au village de voir meurtrir dans le bel âge ton pied mignon par un sabot. Jeune fille du Caboulot, tu ne pouvais souffrir ni caise, ni les canards qu'en corniaise tu menais barboter dans l'eau. Jeune fille du Caboulot, ne penses-tu plus à ta mère ? À la charrue, à ta chaumière, tu ne ris pas à ce tableau. Jeune fille du Caboulot, tu préfères à la charrue écouter les bruits de la rue et nous verser l'absinthe à flots. Jeune fille du Caboulot, ta mine rougeaude était sotte. Je t'aime mieux ainsi, palote les yeux cernés d'un bleu halo. Jeune fille du Caboulot, dit un sermonneur qui t'en blâme, tu tornes le corps plus que l'âme, vers l'enfer tu cours au galop. Jeune fille du Caboulot, que dire à cet homme qui plaide qu'il faut, pour bien vivre, être laide, lessiver et se coucher tôt. Jeune fille du Caboulot, laisse crier et continue à charmer de ta gorge nue les yeux du public idiot.
C'est un texte de 1873,
oui,
de Charles Cros, Vocation.
Oui.
Tout à l'heure, vous disiez, quand on connaît ce feu, qu'il s'agit de la rencontre avec un être ou avec un texte, on ne veut pas que ça s'arrête, mais il y a vraiment quelque chose comme ça qui ne t'arrête pas, en fait.
Oui, et pour moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est que, on peut dire, c'est un manifeste contre le puritanisme, contre le moralisme, qui revient à chaque fois, dès que les choses se referment, dès que les gens peuvent essayer de s'accrocher à quelque chose qui va contre les autres, il y a cette sorte de, bon, qui est à la fois le puritanisme et le moralisme, repose d'abord sur la frustration. Alors que justement, dans Cros, il y a, qui caractérise sa poésie, il y a d'abord un humour incroyable, et d'un autre côté, il y a une sorte de grâce d'être extraordinaire. Et cette grâce d'être... J'ai retrouvé un poème où il dit « J'ai tout touché, le feu, les femmes, les pommes, j'ai tout senti, l'hiver, le printemps, l'été, j'ai tout trouvé. » Et c'est cette sorte de continuellement ce désir toujours que... Et c'est ça la vie à l'état pur, et tout ce qui va contre ça, moi, je ne le supporte pas. C'est cette sorte d'exubérance incroyable de la vie qui est en lui, quoi. Et qu'on voit dans le fonctionnement de cet esprit qui va de la rigueur scientifique au hareng sort, le fameux poème, son fameux poème. Oui. Et en plus, sur cette question-là, parce que aussi, on fait payer. Les filles sont sérieuses quand elles sont laides, quoi. C'est ça.
Et cernées, et pâles. Et fatigué.
Oui. Et le cerner, ça me ramène à ce que j'ai pas pu le dire là, mais qui avait beaucoup joué pour le surmal, c'est que, à un moment, la très jeune fille, elle a un masque. Oui. Et le surmal lui dit, on va arrêter quand les cernes vont dépasser
de ton masque.
Et ça, je trouve très très beau que au masque artificiel se substitue un autre masque, qui est celui de la course à l'infini, quoi, si je puis dire.
On termine avec Victor Hugo.
Oui.
Vos choix.
Oui.
Vous avez décidé de lire un extrait du Promontoire du songe,
oui,
publié de manière posthume en 1901.
Hugo, à l'occasion, grâce à son ami Arago, qui dirigeait l'Observatoire de Paris, qui vient d'acquérir un nouveau télescope, de contempler la Lune.
Mmh.
Arago disposa de la lunette et me dit « Regardez ». Je regardais et j'eus un mouvement de désappointement. Une espèce de trou dans l'obscur. Voilà ce que j'avais devant les yeux. J'étais comme un homme à qui l'on dirait « Regardez !» et qui verrait l'intérieur d'une bouteille à encre. Ma prunelle n'eut d'autre perception que quelque chose comme une brusque arrivée de ténèbres. Toute ma sensation fut celle que donne à l'œil, dans une nuit profonde, la plénitude du noir. « Je ne vois rien, » dis-je. Aragon répondit « Vous voyez la lune. Je ne vois rien. »« Regardez, » dit Aragon. Je suivis l'exemple de Dante vis-à-vis de Virgile. J'obéis. Peu à peu, ma rétine fit ce qu'elle avait à faire. Les obscurs mouvements de machines nécessaires s'opérèrent dans ma prunelle. Ma pupille se dilata. Mon œil s'habitua, comme on dit, et cette noirceur que je regardais commença à blêmir. Je distinguais quoi ? Impossible de le dire. C'était trouble, fugace, impalpable à l'œil, pour ainsi parler. Si rien avait une forme, ce serait cela. Puis, la visibilité augmenta. On ne sait quelles arborescences se ramifièrent. Il se fit des compartiments dans cette lividité. Le pâle à côté du noir, de vagues fils insaisissables marquèrent dans ce que j'avais sous les yeux des régions et des zones, comme si l'on voyait des frontières dans un rêve. Pourtant, tout demeurait indistinct. Il n'y avait d'autre différence que du blême au sombre. Confusion dans le détail, diffusion dans l'ensemble. C'était toute la quantité de contours et de reliefs qui peut s'ébaucher dans de la nuit. L'effet de profondeur et de perte du réel était terrible. Et cependant, le réel était là. Je touchais les plis de mon vêtement, j'étais moi.
C'est sidérant de terminer avec ça, je trouve. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce texte, Annie Lebrun ?
C'est le regard de la poésie, quoi. C'est ça. C'est le regard de la poésie, c'est-à-dire... Il n'y a rien, il y a la nuit. Il regarde la nuit et tout d'un coup, quelque chose...
est là.
Quelque chose est là. Et en même temps, la nuit est inséparable de la lumière, hein, c'est ça. Hugo raconte justement sa première visite à l'observatoire. Donc, à un moment, il demande, il continue à ne plus bien voir, il demande des explications à Arago. Il lui dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et là, il voit comme un relief dans la lune et... Arago lui dit, c'est le promontoire du songe, c'est le nom qu'on a donné. Et à partir de là, Hugo va écrire ce texte absolument extraordinaire, où ça va être un des plus grands plaidoyers qui soit pour l'imagination. Alors c'est très intéressant parce qu'il va écrire ça 30 ans après sa visite. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, donc, c'est en 1863, c'est au moment donc où se met en place la société industrielle, si je puis dire. Et c'est une défense, enfin un déplaidoyer pour l'imagination, c'est-à-dire c'est la luxuriance contre le manque, c'est l'imagination contre le ressassement, et avec une sorte de pari extraordinaire, et je cite Hugo, qui parle du monde qui n'est pas encore et qui est. Et c'est ça l'imagination. Et en même temps, il y a une exaltation du rêve, parce que c'est aussi le promontoire du songe. Et là aussi, je rappellerai que cette question du rêve, qui est quand même cette sorte de nuit et d'infini vers lesquels nous retournons chaque nuit, aujourd'hui, est quand même très menacée. Il y a un livre très intéressant de Jonathan Crary qui s'appelle « Le capital à l'assaut du sommeil ». Mais c'est de ça aussi. C'est jusqu'à présent, ils n'ont pas encore, on n'a pas encore réussi à nous priver du rêve. Et c'est pour ça qu'il faut relire ce texte extraordinaire de Hugo et qui termine aussi. À un moment, il dit on fait sa vie comme on fait son rêve.
Merci beaucoup, Annie Lebrun. Pendant que vous déballiez votre bibliothèque pour le Book Club, parmi tous les livres qui nous entourent, il y a un grand livre derrière vous qui était vraiment exactement à la hauteur de votre visage. Et donc, à chaque fois que je levais la tête pour vous regarder, je voyais sur la tranche les rêves.
C'est ça.
Juste derrière vous.
Ben oui.
Donc là, c'est bien fait dans une bibliothèque.
C'est de ça dont il s'agit.
Merci beaucoup. On tourne une minute de silence.
Bon, merci.
Merci
de votre patience.
Always when you are so close to me, I feel this strange vibration. My head begins to spin, my spirit is free. Free.
Avec les rêves,
enfin. Oui, rêve général.
Rêve général.
Oui.
Voilà. Merci.
Il faut que je vous ouvre l'ascenseur.
Non, on va, ne vous inquiétez pas.
Vous descendez à pied,
ouais.
Tous. Vous aussi. À bientôt.
Au revoir, Annie. Au revoir. Merci
au revoir.
Beaucoup. Pour retrouver tous les textes évoqués par Annie Lebrun, vous pouvez vous rendre sur franceculture.fr à la page du Book Club. C'est aussi là que vous pourrez réécouter l'ensemble des portraits de bibliothèque que nous réalisons. À la prise de son à l'extérieur et dans ces escaliers en cuir, ces escaliers cloutés, c'est Loïc Duros. Et à la réalisation de cet épisode, c'est Vivien Lemeyer. Comme d'habitude, j'adresse un très grand merci à toute l'équipe du Book Club qui m'aide à préparer et à penser ces émissions. Rêve général. Autre monde.